je voulais très très chaleureusement remercier Maurice Serre d'avoir accepté notre demande pour se charger d'une tâche dont j'espère qu'il ne l'a pas trouvée trop ingrate, de présenter le volume des actes de notre colloque de Paris sur Rome et Paris, trajectoire de deux capitales culturelles. Pourquoi l'ai-je demandé à Maurizio? Parce qu'il me semblait important qu'il puisse y avoir un regard extérieur qui soit jeté sur le résultat de nos travaux. Nous, nous avons baigné là-dedans, non seulement au moment du colloque lui-même, mais ensuite, et Marc le sait, dans la phase laborieuse de mise au point des textes, en ayant parfois beaucoup de difficultés pour que les auteurs nous fassent parvenir leurs contributions. Mais nous y sommes parvenus. Nous y sommes parvenus dans des temps qui, je le signale, sont assez records, hein, puisque pratiquement... La lumière. On peut peut-être l'éteindre, puisqu'on n'a plus besoin de l'écran.
C'est pas l'éteindre.
Voilà, donc nous avons réussi effectivement à publier ces actes avec l'aide de l'éditeur en temps suffisant pour qu'ils soient prêts pour notre colloque de Rome d'il y a 15 jours. Donc, un regard extérieur est le regard extérieur de quelqu'un qui a l'habitude de juger des œuvres des autres. Bon, je n'ai pas besoin de présenter Maurizio, vous savez qu'il est à la fois diplomate et écrivain. Alors sur cette notion de diplomate et écrivain, il y aurait beaucoup à dire, et lui-même a beaucoup dit. Il y a des diplomates écrivains et des écrivains diplomates. Les écrivains diplomates, c'est ceux qui doivent leur gloire à l'écriture et très accessoirement à la diplomatie. Et là, on peut penser effectivement Stendhal, Chateaubriand, au plus près de nous, à Claudel, Paul Claudel ou Romain Gary. Et puis il y a les diplomates qui écrivent, mais les diplomates, ils écrivent un peu par, sinon par vocation, du moins par profession, puisque c'est leur boulot quotidien d'alimenter cet immense fleuve, cette immense chronique de l'histoire qui est la correspondance diplomatique. Voilà. Et alors, vous, Maurizio, vous êtes non seulement un diplomate distingué, puisque vous avez représenté l'Italie auprès de l'UNESCO, et puis que vous avez pris depuis quelques mois maintenant vos fonctions de représentant de l'Italie auprès des Nations Unies à Genève. Donc, des fonctions évidemment importantes, surtout dans ce qui est actuellement le contexte international. Mais on vous connaît aussi, et vos lecteurs français en tout cas vous connaissent d'abord comme écrivain à travers les œuvres de vous qui ont été soit traduites, soit publiées directement en français et qui portent pour l'essentiel sur la littérature européenne du XXe siècle surtout. Hein. Marinetti, Malaparte, une biographie de Malaparte qui a reçu le concours de la biographie. Une œuvre très intéressante et très, très, très originale dans son approche sur les frères séparés, Aragon, Malraux, Drieu, La Rochelle, l'idée de rapprocher ces trois personnes, évidemment. Et puis, surtout et dernièrement, une biographie d'Italo Svevo sur laquelle j'ai dirais quelques mots. Alors, est-ce que vous êtes d'abord un écrivain ou d'abord un diplomate? J'ai trouvé un début de réponse dans la préface que vous avez rédigé pour les actes du colloque écrivain et diplomate qui avait été organisé par le ministère des Affaires étrangères français, où vous parlez de l'écrivain diplomate comme d'un, je cite, « étrange animal à deux têtes ». Bon, quand on vous regarde, on est rassuré, vous n'avez qu'une tête, mais apparemment.
Ça dépend du moment.
Apparemment.
Il y a des mus.
Et donc, par rapport à cet étrange animal à deux têtes, vous écrivez également que diplomates et écrivains peuvent coexister d'excellentes ententes à condition de savoir quelles sont ses fonctions respectives et non pas de les confondre. Savoir quelles sont les fonctions respectives et ne pas les confondre, je crois que c'est d'excellentes règles pour se bien gouverner, qui ne vaut d'ailleurs pas que pour les écrivains diplomates. Alors je voudrais quand même profiter de l'occasion pour signaler ce que personne ici n'ignore, c'est-à-dire cet ouvrage qui s'appelle « Italos Devo » ou « L'Antivie », qui est un ouvrage magnifique que tout lecteur de Svevo doit lire, parce que peut-être que tout lecteur de Svevo croit tout connaître de Svevo, mais enfin on découvre qu'on n'en savait pas beaucoup, ou qu'on connaissait des morceaux de Svevo détachés, des fragments. On connaissait le Triestin, on connaissait l'homme sous l'aspect de son identité juive, on connaissait ses rapports avec Joyce ou avec la psychanalyse. Mais je crois que le grand mérite de cette biographie, qui est vraiment la première à éléments, c'est de recomposer l'unité perdue de la figure de Svevo et de montrer que cet homme à la vie extraordinairement banale et quotidienne, de mieux comprendre comment, à partir de cette existence extrêmement banale, a pu se créer une œuvre qui, elle, est au contraire exceptionnellement originale, forte. Et donc, voilà. Moi, je dois dire que la lecture de ce livre m'a donné envie de relire Svevo, et la redécouverte que j'en ai faite après l'avoir lu dans un premier temps à l'époque de mes études italiennes il y a 40 ans, m'a ouvert une sorte de... Alors, bon, cet excursus par la littérature étant fait, cher Maurizio, je vous cède la parole et nous écoutons en tremblant ce que va être votre... jugement sur ce livre publié par Italique.
Merci Jean-Maurice. Mesdames et messieurs, je suis très touché et très ému. Je ne m'attendais pas vraiment à une présentation, si l'on veut, aussi formelle, bien qu'affectueuse. Parce que j'avais préparé quelques notes de lecture sur les textes qui composent ce volume, et donc je pensais qu'il y aurait une sorte de présentation chorale. Alors d'être moi, le Virgile d'un travail si complexe et si dense, là je suis un peu perdu, parce qu'il y a quand même des thèmes tous intéressants, mais qui, pour moi, sont plus près de mes recherches et de mes études, et d'autres... tout à fait fascinant, mais où je suis vraiment un peu un béotien. Donc j'ai beaucoup appris, notamment sur les thèmes, disons, d'ordre artistique et je dirais d'ambiance générale des deux capitales et de leurs rapports. Mais c'est évidemment le côté historique et littéraire qui m'a particulièrement retenu, et donc c'est un peu... inévitable de commencer par là. Et je crois que il y a un point qui me semble un point de départ important, c'est que d'une part, Paris a une tradition ininterrompue dans les siècles de grande capitale de rayonnement mondial. Rome, en février 1871, devient le laboratoire d'une nouveauté qui est à la fois historique, c'est-à-dire un premier État italien unifié, enfin il a été unifié depuis quelques années, mais c'est en février 71 que Rome devient la capitale, et qui a à la fois une passion enthousiaste et tout à fait culturelle vers la renaissance de cette capitale. Si vous vous rappelez le chapitre de Federico Chameau dans la Storia della politica estera italiana, qui s'appelle « Il mito di Roma », le grand mythe du Risorgimento, et en même temps, il y a la nécessité d'en faire quelque chose qui n'a plus existé, parce que la présence d'un autre État, qui est l'État auquel on a arraché en ce moment, avec le pouvoir temporel, la responsabilité directe de l'administration et de la gestion d'une ville historique, mais d'une ville non capitale au sens moderne, est quelque chose que les Italiens, je crois, n'ont pas encore compris. Il y a d'ailleurs un débat qui est revenu très récemment, fallait-il faire de Rome la capitale de l'Italie? Et dans la confidentialité de l'accueil que me fait Italique, et donc parlant en écrivain, et non en diplomate, en écrivain, je ne sais pas, disons, en ami de l'écriture et d'Italie, je pense que ce débat a souffert d'une rhétorique nationaliste. Rappelons tous ce que cela a signifié au moment du fascisme, avec qui d'ailleurs était justement une tentative de faire très vite de Rome une capitale qui reprenait son histoire ancienne, redevenait moderne et sautait les siècles où n'avait pas été italienne. Voilà. Et je pense que c'est un débat que nous avons. Ne fallait-il pas, à ce moment-là, choisir par réalisme politique une hypothèse bonne, c'est-à-dire faire une capitale qui ne serait pas une capitale aussi lourde d'une histoire non italienne, universelle, si l'on veut, dans le sens de la faculté du christianisme, et de ce point de vue-là, laisser à des générations à suivre après l'établissement d'une démocratie qui pouvait partir sur l'Italie ombertine, sur l'Italiette et tout ça. Évidemment, à ce moment-là, on ne pouvait pas prévoir ni la guerre mondiale ni le fascisme, et laisser que cela se métabolise dans le sens de l'histoire. Et cela revient, parce qu'il y a un malaise de Rome capitale chez beaucoup d'intellectuels italiens, dans un sens ou dans l'autre, et je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent pour Paris, qui a toujours à la fois sauf peut-être au moment de 1870, mais reprend très vite, avec les deux expositions universelles, le sens d'être à la fois une capitale culturelle et une capitale historique ininterrompue dans son évolution. Donc, je vois ce premier clivage, si l'on veut, psychologique et historique à la fois, entre les deux Roms. Et je viens de sortir de la lecture d'un livre absolument extraordinaire, d'un auteur que j'aime de plus en plus, et je ne sais pas s'il a été traduit, son œuvre majeure a eu deux traductions en France, mais je ne sais pas si l'Impero de Di Roberto a été traduit. Parce que c'est vraiment le roman des intrigues des viceré, mais dans la Roma Umbertina, et le thème de l'obsession de la... Je crois qu'il avait prévu une trilogie, l'Impero, l'Imperio plutôt, devait être était le troisième, devait y avoir un au milieu et qui n'a pas été. Parce que il reprend des personnages des viceré, qui ont été traduits d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, les princes. Oui, mais on perd complètement l'idée de... Il y a une première traduction qui a dû être les vice-rois. Et... Voilà. Et 50 pages. Donc je pense que ce débat est important. C'est une première chose, j'imagine que nous allons en débattre, que je voulais signaler à la lecture de ce livre. L'autre thème qui me tient très à cœur, c'est que j'ai toujours considéré et mis au centre de mon activité culturelle, pour ce qu'elle compte, et professionnelle tout de même, après 35 ans de carrière, qu'il y a certainement des affinités très fortes entre les deux nations et les deux cultures, mais j'ai trouvé toujours que pour bien en comprendre les complexités et également les potentialités, il faudrait vraiment se départir d'une sorte de rhétorique fileuse, bonasse, mais tout de même rhétorique, sur les sœurs latines et ce qu'elles ont en commun. Elles ont beaucoup de choses en commun, et comme dans les familles ou dans les ménages, elles ont beaucoup de choses qui les différencient, et le rapport est extrêmement complexe. Donc je pense que tout ce qui est dans la rhétorique des Français, Italiens de mauvaise humeur, des Italiens, Français de bonne humeur, même si la formule est brillante, nous devons le laisser de côté. Je suis très reconnaissant à toutes les contributions qui nous permettent d'aller un peu au-delà de cette vision qui est malheureusement encore, il faut le dire, très actuelle. Je pense qu'Italie devrait se pencher sur ce problème. Notamment, je vais vous dire une chose qui me frappe beaucoup, c'est de voir c'est peut-être justement à cause de ma sensibilité particulière sur les thèmes de l'histoire, le refus de voir l'histoire de l'Italie. C'est assez impressionnant. J'ai eu un courrier très, très sympathique et pour moi très riche, très enrichissant pour les deux biographies de Malaparte et de Svevo. Et dans les deux cas, bon nombre de personnes m'ont dit, vous savez, nous avons découvert par Malaparte le premier chapitre quand même qu'il y a eu l'Italie dans la Première Guerre mondiale. On n'en savait absolument rien. Très bien. Docteur Attel, très bien. vivre à Trieste, mais on ne savait pas, on pensait que Trieste... Alors, je pense qu'il y a là vraiment un déficit de perception, et je pense que cela n'est pas un problème où les Italiens, qui sont des consommateurs massifs et addictifs de masochisme national, peuvent se considérer des victimes, parce que ce sont eux qui, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, ont voulu donner de leur histoire nationale une vision très simplifiée, qui pouvait leur permettre de revenir dans le contexte international, mais on en paie le prix après cela, parce que il y a finalement beaucoup de difficultés, et je trouve par exemple le texte de Gilly sur le cinéma dit quelque chose de très important. Il n'y aurait pas de néoréalisme s'il n'y avait pas eu un réalisme. Alors le néoréalisme n'est pas des destructions de la guerre, si peut-être comme inspiration, mais il naît également de ce qu'il y avait dans les années 30, une école de réalisme du cinéma, qui avait d'ailleurs pris des thèmes soviétiques, parce que si on prend un film comme La vieille garde de Blazek, c'est de l'adaptation poutovkinienne assez typique, et qui a continué dans cette tradition. Un homme que j'ai bien connu et que j'ai beaucoup apprécié, non seulement pour son talent, mais pour son franc-parler. La dernière fois que je l'ai vu, un an, dans le bouchon où il mangeait tous les jours, et là où il s'est écrasé sur le sol, d'ailleurs, je parle du metteur en scène Carlo Vizzani, il y a un an, et Carlo, vous savez, tu te souviens, hein? Non, je ne me souviens pas, mais moi je me souviens, 41, il y avait 41 revues de cinéma dans les années 30. Bon. Je ne sais pas vraiment quel en était nécessairement le contenu, mais aujourd'hui, dans l'avion, avec ce très beau recueil d'art, j'avais un livre que j'ai trouvé chez un antiquaire de Bruxelles, qui m'intéressait, de Genève, d'un petit éditeur Baratti de Turin de 1931, et à la fin du livre, il y avait la liste des ouvrages, il avait une section déjà d'auteurs russes très importants, dont des auteurs contemporains, Fédine, Pignac, Pasternak. Il avait une liste d'ouvrages, une section consacrée à l'Europe centrale, alors évidemment beaucoup de Hongrois, mais des Polonais et tout ça, et il y avait des auteurs qui reviennent aujourd'hui, souvent dans des catalogues très pointu, qu'on redécouvre et sur lesquels est tombée une charte de conformisme pendant une trentaine d'années. Donc, je ne fais pas évidemment l'amalgame entre les conditions d'alors et d'aujourd'hui, encore que je pense, avec beaucoup d'admiration pour le souvenir du père de Paolo Bassani, que cette génération, qui était la génération de mon père et de son père, a eu peut-être l'avantage de devoir lutter avec plus de force contre le conformisme, l'autarcie et les limites, voire policières. Et cela a produit quand même plus de volonté. Je trouve que ça a été une génération plus européenne, je vais dire ce que je pense, une génération plus européenne, avec plus de goût, de volonté, de naïveté pour l'attrait de l'Europe et donc de la France, qui était pour le régime officiellement la grande ennemie, parce que c'était la culture décadente par définition, par rapport à des doses massives de conformisme que nous avons eues dans les années 50, 60, 70 et 80. Bien que je voudrais évidemment nuancer selon les cas et selon les auteurs. Et je trouve qu'entre les lignes de certaines communications notamment, cela revient avec beaucoup de... Un troisième point de réflexion, parce que moi je les avais notés comme introduction à un débat que j'imagine nous pourrions avoir et qui aura lieu, c'est également l'idée du beau. Voilà une autre chose qui me frappe beaucoup. C'est-à-dire, on nie à l'Italie, simplifie, mais c'est une simplification, disons, qui peut aider le débat, une vocation à l'histoire, mais on lui reconnaît massivement une vocation à la beauté. Très beau, si l'on veut, mais à la fois c'est très peu historique, parce que cela porte à concevoir le débat culturel, non pas pour les spécialistes que vous êtes de très grande envergure, mais pour un public plus large, je le vois par exemple dans le fait du débat, des traductions qui se font d'auteurs italiens contemporains, cela situe toujours le choix, toujours ou très fréquemment, du côté de l'esthétique ou même de l'érotique. Il y a un texte qui s'appelle Rome érotisée. Ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très frappant. Et on a du mal à vouloir en dégager là vraiment les racines dans l'histoire. Et je cite trois cas qui me frappent comme tête de chapitre d'une réflexion de ce genre pour les spécialistes que vous êtes. Manzoni, le refus des fiancés dans le vaste public français. On cherche à, on fait des poches parce que quand même on le met au programme scolaire. Mais le roman n'est pas entré. Non. Ce n'est pas Les Misérables italiens. Pourquoi? Eh bien, je pense, par exemple, aux pages très brillantes, même trop, et très injustes de Jean-François Revel dans son essai sur l'Italie, ni pour l'Italie, en fait c'est contre l'Italie, mais ça c'est mon opinion, quand il dit non mais ça c'est un roman de Jean finalement, il ne peut pas pénétrer en France, je simplifie, mais pas tellement, parce que c'est un roman qui porte sur la tristesse et l'accablement de la vie, et ce qu'on veut de l'Italie c'est la beauté et la joie. Donc lui voulait Arioste, très grand auteur, probablement plus grand que Manzoni par ailleurs, mais on veut, cette pénétration, à mon avis, a été stoppée. On ne veut pas considérer le 19e siècle, parce que à partir de Manzoni, tout, on veut bien le laisser aux poètes, hein. On veut bien laisser les poètes désespérés, le pape, et ça va bien. Mais on ne veut pas dans la littérature qui n'est pas une littérature aussi grande que la littérature russe, française ou anglaise, mais honnête. J'ai lutté contre des formules comme celle de Svevo, qui est pourtant diffuse, inventeur du roman italien, qui ne signifie absolument rien. Il y a des passages entiers de Una Vita qu'il reprend de Verga et qu'il reprend d'auteurs même mineurs comme Emilio De Marchi, mais intéressant de l'époque. Et donc, je trouve qu'il y a ce refus d'une vision qui serait contre l'Italie du bonheur. Et j'en reviens par là à mon deuxième cas, qui est Stendhal, qui est l'obsession stendhalienne, qui, autre très grand auteur, mais qui en fait presque l'interprète, par définition, de l'Italie pour un grand nombre de Français cultivés. Je n'ai jamais compris pourquoi, alors que finalement il y a Chateaubriand, mais Stendhal, il y a une fixité stendhalienne pour le public et même pour des intellectuels français qui ne jurent que par Stendhal en parlant de l'Italie et qui vont retrouver ce qu'il y a de stendhalien même dans l'Italie d'aujourd'hui, un siècle et depuis plus tard. Et le troisième cas que j'aimerais citer, c'est la divinisation de Pasolini en France. Pasolini a une côte, je me demande vraiment si... on s'imagine qu'il marchait sur les eaux. Mais quand on parle, même avec des jeunes écrivains français de 20-30 ans, Pasolini revient comme une sorte... Évidemment, il y a beaucoup de choses qui attirent chez lui. Mais là encore, l'opération qu'on fait chez lui est, à mon avis, telle qu'on oublie que Pasolini est l'un des rares, et c'est un immense mérite que je lui trouve, d'avoir posé le problème des racines. C'est-à-dire, on a encore une tendance à le considérer, en tout cas, un certain nombre de personnes avec qui j'ai parlé de ça, notamment des jeunes écrivains, qui se réclament de lui, qui voient tout le côté de rébellion, qui est fort et qui est sincère. Mais les causes de cette rébellion, et par exemple, toute sa notion de rattraper l'Italie anti-Dolce Vita, qui est très forte, anti-beauté, et anti-bonheur au sens propre, vous n'en veut pas l'avoir. On préfère l'oblitérer ou l'oublier, et qui est pourtant constitutive de sa nature et de son existence de poète. Je crois que ces trois auteurs sont représentatifs des complexités fertiles, nécessaires, mais qu'on a très souvent tendance à gommer en pensant à tout ce qui nous unit et qui est très, très, très important et très nécessaire, mais qui ne suffit pas à expliquer la richesse, la densité et même l'incération des rapports franco-italiens sur le plan culturel. Je n'ai pas parlé de politique et de diplomatie, et je n'ai pas parlé d'image des pays respectifs, sauf sur un point sur lequel je conclue, qui m'inquiète. C'est qu'il y a très peu, je ne suis pas pour les défenses protectionnistes culturelles et autres, mais je pense qu'il y a encore assez peu de prise en considération de la marginalisation dans les faits, dans les organismes internationaux, du rôle maintenant des cultures françaises, italiennes, espagnoles et d'Amérique latine. Et c'est le choix de la beauté, parce que c'est un peu ce qu'on applique également à l'Amérique latine, grand pays esthétique, grandes œuvres, mais la domination. Moi, je suis arrivé à l'UNESCO, qui est aujourd'hui largement anglo-saxon, et je suis passé aux Nations Unies, qui sont exclusivement anglo-saxonnes dans une ville francophone. Et quand je parle des Nations Unies, je ne parle que d'une partie de mon modeste portefeuille, parce que j'ai 22 organisations internationales sous ma, enfin, en ce qui concerne l'Italie, sous ma responsabilité, et il n'y en a pas une qui ne soit anglophone. Donc, nous risquons aujourd'hui de nous trouver dans une guerre des pauvres, parce qu'il y a effectivement un rôle et une place que nous tenons qui est de plus en plus limitée. Alors, on ne peut pas faire du protectionnisme, mais il faut au moins faire des synthèses, du syncrétisme et des unions véritablement fortes sur des sujets forts. Et je pense que, par exemple, le débat maintenant sur la Première Guerre mondiale, là encore, c'est ma tendance à voir le profil historique des choses, va nous permettre enfin de gommer un certain nombre de lieux communs, de points qui ont été assez acquis de façon assez paresseuse, et de nous reposer et de nous reproposer également comme deux nations ayant vraiment une très forte unité culturelle, très souvent dans la différence. Voilà, ce sont mes remarques à partir de ce très beau rapport.
Merci beaucoup pour cette lecture vraiment très, très stimulante et qui, par tous ses côtés, dépasse un petit peu et même assez largement les limites que nous avions assignées à notre exercice. Mais je crois qu'effectivement, dans la riche moisson des observations que vous avez faites, il y a pour Italique matière à organiser au moins 15 colloques. 15 colloques. Et en particulier, j'ai bien apprécié votre référence à la rhétorique des sœurs latines, qui malheureusement sévit encore, y compris dans notre modernité technicienne, et sur laquelle effectivement il faut revenir incessamment pour essayer de tordre le cou. Donc, je vais donner la parole à la salle pour réagir, parce que je suis sûr que tout ce que vous avez dit sera loin de laisser indifférent nos membres. Il y a juste une question qui est très latérale par rapport à votre propos, mais qui m'a une curiosité. C'est que à propos du choix de Rome comme capitale, vous avez dit on aurait pu choisir l'hypothèse bonne. Et donc on aurait pu envisager effectivement, je ne sais pas moi, Macerata ou Campobasso. Mais l'hypothèse bonne, l'histoire démontre que finalement elle n'a tenu qu'aussi longtemps que l'hypothèse Berlin était impossible. Et donc d'une certaine manière, l'histoire finit toujours par rentrer dans son lit. Et si on avait mis la capitale à Macerata ou Campobasso, je suppose qu'elle serait revenue à un certain moment à Rome, non ?
Oui, là, je pense que Gilles aurait son mot à dire. Non, le débat est un débat obsessionnel sur Rome. Et d'ailleurs, il y a des morts dans le déplacement de Turin à Florence, il y en a dans le déplacement à Florence. Non, évidemment, c'est anti-historique quand on voit une telle unanimité sur Rome de se poser le débat. Ils se sont trompés. La seule chose que je voulais prouver d'une façon un peu paradoxale, c'est que la tâche était immense. Et des livres comme celui d'Yves Herbert, ainsi que beaucoup de... du point de vue, disons, de la littérature, des témoignages historiques, le Diario di Fine Secolo du président de Senafarini, qui est un livre extraordinaire, c'est le livre d'un patriote du Risorgimento qui chaque jour note gli austriaci ci minacciano, il papa ci minaccia, le complot, l'idée du complot est obsessionnelle, du complot austro-papaliste, ou papiste plutôt. Et donc, de savoir en même temps que les faibles forces du nouvel État, qui n'ayant pas participé, ce qui deviendra un irritant immense dans les relations franco-italiennes, à la résistance contre les Allemands en 1870, a perdu le point de repère du Risorgimento, donc n'a plus l'amitié de la France, a l'idée du complot autrichien qui s'appuie sur le pape, et en même temps, et c'est pour ça que ce qui a été très reproché à Crispi, ce n'est pas simplement par l'idée que l'Allemagne est la grande puissance du moment, mais c'est à un certain moment l'idée de trouver un partenaire important. Donc ça, le débat est complexe, mais je veux dire qu'il n'y avait aucune possibilité de Macerata ou de Campobasso, ou même de rester à Florence à ce moment-là. Mais je pense que, à la différence, je le posais en termes de différence avec Paris, et avec ce que Paris a historiquement signifié.
Très bien. Donc, si ce n'est pas abusé de votre temps...
Ah bon, je suis tout à fait.
Alors, je donne la parole à la salle. Et je pense que... Quelques réactions, Michel.
Alors, c'est difficile de prendre un seul des sujets si nombreux et si profond que vous avez abordé, mais d'abord vous êtes au cœur, non seulement vous avez lu avec un soin extrême, non pas seulement les textes rassemblés dans ce volume, mais entre les lignes, comme vous le disiez, l'en-dessous du texte, cette espèce de tissu culturel qui n'est pas commun seulement, qui est aussi différent, voire diffracté ou même lacéré, comme vous le disiez, mais même vous avez donné quelque chose comme la ligne profonde de ce que voudrait être italique, c'est-à-dire justement le lieu où s'élabore le refus des images conventionnelles, le refus des clichés, le refus de ce consensus mou qui porte avec lui des incompréhensions et des représentations factices d'une sorte de consanguinité naturelle qui ferait, comme vous l'avez dit, des Italiens, des Français, des Italiatrices, etc. Et donc vous êtes dans une sorte de logique profonde qui est à la fois celle du livre, mais aussi celle de ce qui nous anime. Alors, dans cette logique, il y a évidemment des figures de proue dont vous avez fait émerger quelques symboles, mais qui, de mon point de vue, éclairent aussi ce qui fabrique des mythologies culturelles à l'œuvre, encore, dans nos représentations. Il y a deux cas qui me semblent caractéristiques. Il y a d'abord la façon dont l'impatience et le sens du style bref français, qui est peut-être une des raisons de la difficulté à lire du Manzoni, surtout quand on en enlève des pages entières. En tout cas, quelque chose comme un goût français de la hardiesse et du style bref, du style condensé, a probablement été pour quelque chose dans la conjonction de l'image stendhalienne d'une Italie opératique avec des épisodes véhéments, passionnels, où l'Italie s'est trouvée en quelque sorte portée par la flamme du style de Stendhal. Alors, évidemment, c'est déformant. C'est un miroir déformant. Mais pas seulement. C'est-à-dire que dans ce que Stendhal a capté d'un reflet des villes italiennes où il circulait, de l'air italien qu'il respirait, et de cette arrivée par les montagnes, et de tout ce qu'il aimait dans les manifestations d'opéra, ou il y a probablement, justement, quelque chose comme une volonté de détourner ou de dépasser les images conventionnelles qui, par ailleurs, et diplomatiquement, pouvaient lui être apportées d'une Italie qui n'était pas la sienne. Et donc, au fond, si Stendhal a porté une autre image de l'Italie, c'est peut-être parce qu'il était lui-même dans une logique où une Italie de facettes ou de façades ne lui convenait pas. Et peut-être qu'il a créé de toutes pièces une Italie qui a, en quelque sorte, fasciné un public de Français qui s'est retrouvé dans la représentation traditionnelle qu'il avait de ce pays qu'il connaissait par ailleurs et depuis longtemps, mais qui allait à l'encontre justement de ses idées reçues. Et donc ce que peut-être le public français aime encore de l'Italie de Stendhal, c'est une autre Italie qui n'est pas la même que celle qu'on voulait à l'époque considérer comme la plus opulente, la plus riche. Stendhal, au fond, détonnait. Et peut-être que c'est une manière aussi d'avoir cassé une image conventionnelle. Et moi, je suis assez heureuse de voir que Stendhal est encore lu. Il est lu par des gamins de 20 ans, de 30 ans, qui découvrent parfois l'Italie par Stendhal, et de façon plus heureuse, plus productive, que par tout autre lecteur d'Italie. Et alors, à l'inverse, Pasolini n'est pas un mauvais... Pasolini, avec toutes les remarques que vous avez faites et que je partage, n'est pas un mauvais introducteur pour quelque chose qui dit, me semble-t-il, qu'il y a des mythes profonds, et pas seulement italiens, mais en même temps d'une culture de la nature, de la grande nature, de la nature aussi bien des pays d'Europe centrale que des pays... moi, il m'est arrivé de travailler sur des textes de Pasolini qui renvoient à tout ce monde de l'Orient que Pasolini connaît et dont il fait une des composantes de son Italie à lui. Et donc je trouve aussi que Pasolini fait partie des outils par lesquels l'Italie s'enrichit et nous apporte, alors à part une parole poétique qui est plus d'une langue italienne en italien, mais aussi plus d'une Italie dans l'Italie, Pasolini. Et alors je voulais aussi dire que je partage profondément votre idée que le sujet de la Première Guerre mondiale est un sujet qu'il faut revisiter. Il y a en France un général qui s'appelle Ira Storza, qui a été chargé des commémorations de la guerre de 14-18. Et je lui ai offert un film italien de Mario Monicelli qui s'appelle La Grande Guerra, avec Vittorio Gassman, avec Bernard Blier, avec Silvana Mangano, très jeune, extraordinaire, d'une grande beauté. Et il a apprécié la vision italienne, qui n'est pas exactement la même que celle qu'on peut trouver dans des films français de la même époque que le film La Grande Guerra, mais qui est une vision qui enrichit la perception française de l'investissement dans la Première Guerre mondiale. C'est une vision évidemment debout, évidemment du sort d'un peuple délaissé qui s'est trouvé malgré lui embarqué dans une aventure qui le dépasse complètement, mais qui a la capacité de trouver une forme d'héroïsme populaire. Et le héros, Vittorio Gassman, Romagnolo, qui parle avec un accent romain, qui parle en italien, avec l'accent romain extraordinaire et populaire, se trouve embarqué, tout mauvais garçon qu'il est, dans une aventure qui va le transformer en un héros réel, qui va perdre la vie. Alors ça, c'est un sujet sur lequel, à mon avis, les Français ont à apprendre des Italiens, mais dans un regard qui décrase aussi complètement leur propre regard sur cette guerre. L'Italie apprend quelque chose à la France de la France.
Vous parlez de densité de... Pour parler de densité d'intervention, vous en avez mis un plein paquet en 10 minutes. Non, et vous me permettez beaucoup de nuancer. Je m'excuse vraiment de la rudesse, de ce n'est pas de la qualité de sécheresse, de concision française, c'était plutôt de la brutalité avec laquelle j'ai asséné des concepts trop rapidement. Évidemment, Stendhal est un immense écrivain, probablement le plus grand écrivain italien du 19e siècle. Mais, en tout cas, le plus grand romancier italien du 19e siècle. Bien que je garde à Manzoni beaucoup d'affection. Mais le problème, c'est que je citais son cas comme celui de Pasolini un siècle après, ils sont devenus les interprètes officiels de la Vulgate à travers. Et cela dépasse les forces de n'importe quel écrivain. Donc, nous sommes tous des composantes d'un paysage culturel auquel nous apportons tous notre contribution plus ou moins grande et plus ou moins importante. Donc l'exclusivité qui devient non critique par définition devant des personnes qui ont fait de la critique et de la raison leur vocation pédagogique, avec lesquelles ont été pris le cas Stendhal et le cas Pasolini, me portait à avoir. Stendhal, il faut ajouter quand même, avait un tel amour de l'Italie pré-unitaire, évidemment, et c'est celle qu'il a connue, dans laquelle il a été heureux, qu'il a contribué quand même à la déhistorisation, si on peut utiliser ce mauvais terme, de ce qu'il faisait. Il a dit de très belles choses sur les carbonari, sur ce qui se préparait, mais en même temps, il avait une sorte de regard sur l'Italie d'avant et qui était la sienne, celle de son bonheur et de sa jeunesse perpétuelle. Donc, de ce point de vue-là, c'est un peu plus difficile. Pasolini a écrit des choses avec un courage inouï qui lui a coûté de grandes fractures politiques et psychologiques dans le sens des racines. Là encore, c'est comme toujours chez lui, d'une passion tellement chargée de passion que parfois il oublie, parce qu'à la fin il fait une sorte de vocation qui devenait très difficile à accepter de cette Italie qui devait absolument être celle des pauvres, des humbles, des démunis de l'entre-deux-guerres, parce que vous vous souvenez de son éloge de l'analphabétisme à un certain moment, parce qu'il disait « mieux vaut ça que la langue de la télévision ». Donc, c'était devenu à la fin du paroxysme à l'état pur. Deux petites observations sur l'histoire et sur les langues locales. Je ne sais pas d'ailleurs comment on doit les appeler. C'est effectivement un autre point de différence. On est impressionné à quel point cette richesse ne passe pas dans une culture comme la culture française, qui a fait du français parlé par tous les Français, non seulement la pédagogie de la Troisième République, mais la vocation la plus ancienne de l'État et du maître d'école. Et effectivement, la palette immense, par exemple les triestinismes ou triestismes de Svevo, oui. qui sont très modestes, mais sur lesquels Valérie Larbeau l'interroge au moment de la traduction, qu'est-ce que ça veut dire exactement, sont dans notre vie à nous tous. Vous connaissez l'Italie comme nous, donc vous êtes de ce point de vue-là de Merjou. Et nous en sommes imprégnés, et effectivement, c'est très difficile à faire circuler. Et j'apprécie énormément parfois des efforts de traduction qui sont faits dans des textes comme ceux de Gade, par exemple. Vraiment intervenir dans tout cela est d'une telle complexité. Voilà. Mais j'y peut-être sur la Première Guerre mondiale, vous voulez dire quelque chose, parce que j'en ai cheville ouvrière, pas de la guerre, des célébrations.
J'en arrive de la guerre, puisque je faisais cours et je fais cette année séminaire sur la Première Guerre mondiale en Italie, justement. Et, que voulez-vous que je vous dise de plus dès lors qu'on s'intéresse à quelque chose, on a aussi toujours l'impression, et c'est normal, qu'on le découvre, qu'on le fait découvrir. Il se trouve qu'il y a une historiographie importante de la Première Guerre mondiale en Italie. Le seul problème est que si la guerre mondiale est un conflit, la guerre mondiale des Italiens est un conflit périphérique pour les Français, c'est parce qu'elle l'est pour les Italiens. pour commencer. C'est cela qu'il faudrait poser. La Première Guerre mondiale est oubliée politiquement et historiographiquement dans la première moitié du XXe siècle, ce qui n'est pas, en Italie, ce qui n'est pas le cas de la nôtre. Je ne veux pas vous rappeler des choses que vous savez aussi bien que moi, et peut-être mieux que moi, mais la confiscation du souvenir de la Première Guerre mondiale par le fascisme fait que les Italiens, jusqu'aux années 70, n'ont pas affronté réellement, politiquement, historiographiquement, et peut-être même effectivement, leur guerre. Donc, je ne suis pas sûr que les Français, la méconnaissent plus qu'ils méconnaissent d'autres guerres. C'est vrai, je suis allé parler récemment à France Inter sur la Première Guerre mondiale italienne pour dire exactement ce que tu as dit ou ce que dit Maurits, c'est-à-dire cessons de considérer cette guerre comme un conflit périphérique. Sauf que dès lors qu'on commence à s'intéresser à la Première Guerre mondiale, on s'aperçoit que la seule chose qui intéresse les Français, l'historiographie française et même le discours politique français, longtemps, c'est la leur, c'est-à-dire la grande guerre qui se joue sur notre front. Donc peut-être prenons les choses différemment et demandons-nous, une fois passé 1914, parce que l'année de célébration de la Première Guerre mondiale, du centenaire, celle de 2014, elle va être vraiment, réellement occupée en France par... Et c'est normal, d'une certaine façon. Je ne dis pas historiquement, historiographiquement, mais c'est normal politiquement, sentimentalement. Enfin, elle va être occupée par le grand front qui est le front occidental par excellence. Maintenant, demandons-nous comment on peut ensuite faire connaître une historiographie de cette première guerre qui a mis du temps à se développer en Italie, mais qui est importante en France ensuite, et comment peut-on faire également connaître en France la façon dont les Italiens vont affronter le souvenir de la guerre. Il faudrait déjà qu'on sache comment les Italiens vont l'affronter. Maurizio sait bien, puisque tous deux nous sommes intéressés à cela, que, et de près, et au sommet des choses même, comment l'État italien a eu du mal à admettre qu'il fallait célébrer sa Première Guerre mondiale dès 1914.
Oui, sans doute. Non, je pense que la considération, surtout de la littérature, nous entrons dans l'histoire, ce qui nous a conduit vers l'histoire contemporaine, mais je pense que l'impression, c'est qu'après le 150-naire qui a plutôt bien marché, l'effort était tel qu'on ne voulait pas risquer de répéter une chose qui est considérée encore, malgré tout, et ne parlons pas de la Deuxième Guerre mondiale, par une partie de l'opinion publique non préparée. Mais ce qui me frappe quand même, c'est une donnée qui est importante, et Paolo Grossi avait fait un colloque important sur ça, c'est qu'il y a une très forte littérature italienne de la Grande Guerre, c'est-à-dire si elle est confisquée après, si elle est périphérique, même dans la volonté des dirigeants italiens, parce que c'est une guerre très égoïste, pour avoir Trento, Trieste et voilà. C'est une guerre parallèle.
On a bien nuancé la déclaration de l'égoïsme.
Oui, mais la phrase était particulièrement malencontreuse, parce que l'égoïsme national vaut pour tous les peuples. Mais il est certain que cette idée d'une petite guerre continue et que les Italiens ne déclarent la guerre à l'Allemagne qu'en août 1916 sur la pression des Alliés. Oui. Mais d'ailleurs intéressant que les Allemands, qui avaient des intérêts bancaires, financiers, industriels, chemin de fer énormes en Italie, ne pensaient pas eux aussi à déclarer la guerre à l'Italie. Donc voilà. Mais la littérature de guerre, la littérature des tranchées, est quand même une littérature très forte, très forte, et qui couvre d'ailleurs tout le spectre idéologique, parce qu'il y a des hommes de gauche qui font, et là il y a le mythe de la France et des sœurs latines qui est très fort, chez des gens comme Guglielmo Ferrero, et disons tous les intellectuels d'annonce aussi d'ailleurs, qui a un rôle énorme. Et d'autre part, il y a les nationalistes et les droits, et plus ou moins tous se retrouvent dans cette guerre. Et la confiscation, sur laquelle je suis sûr que Gilles pourra écrire et dire des choses, la confiscation vient en grande partie du fait que c'est gênant pour le fascisme de voir qu'il y a des, à tel point une comment dirais-je, une vocation nationale avant le fascisme, qui lui se targue de l'avoir inventé, alors qu'il a complètement falsifié et manipulé, mais se targue de l'avoir inventé. Donc on ne veut pas savoir qu'il y a une... Donc le problème est pour les Italiens eux-mêmes extrêmement complexe.
La Première Guerre mondiale souffre en amont d'être considérée comme la quatrième guerre du Risorgimento et en aval comme la première du fascisme. C'est cela qui fait qu'il n'y a pas de place pour le souvenir historique, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas. Il y en est. Et par ailleurs, il y a une vraie représentation littéraire, ça, Maurizio a raison, tout le monde connaît Unanno sulla Topiano, et ce n'est pas, à ma connaissance, un auteur qu'on peut taxer de pré-fascisme. Donc là, en effet. Vous peut-être, mais.
Partisarde d'action,
mais les fascistes ne l'ont pas vu comme cela.
Non, mais sur le...
Vous, peut-être.
Non, mais je ne veux pas vous mettre... Non, mais je pensais simplement que sur l'Anno sulla Topiano, en parlant de cinéma, c'est l'autre film connu, Uomini Conte, qui a complètement falsifié le livre. Pas falsifié la partie magnifiquement interprétée par Alain Cuny du général qui veut absolument, dur, parce qu'il y a eu cet élément.
Général Léon.
Mais par exemple, les décimations, il met des décimations avec qui ne sont pas dans le livre. Et en revanche, vers la fin, mais pas dans la
partie.
Mais il n'y a pas la scène la plus forte du livre. C'est quand le soldat dans ce bataillon, qui n'est pas un bataillon punitif, mais qui est un bataillon d'élite un peu simple, qui à certains moments perd la tête et court vers les tranchées autrichiennes pour se rendre. Et ses camarades lui tirent dessus. Ça, ce n'était pas politiquement correct dans les années 70. Et quant au rôle personnel de Lussu, très intéressant, parce que Lussu, ça nous éloigne un peu, mais c'est
certainement. Mais puisque nous devons faire un colloque en 2015, et la Belgique a joué un rôle extrêmement
important.
Je ne parle pas simplement de la guerre, ça nous le savons, mais y compris dans les structures de mobilisation de l'opinion en Italie. Pas seulement
Malaparte part en guerre parce qu'un député belge vient parler à son collège en 14 des crimes.
Voilà.
De ton.
Bien, eh bien, écoutez, encore une fois, merci très chaleureusement, Maurizio. Oui.
Non, mais les actes de notre colloque. Merci beaucoup.